Bien, et bien, je passe maintenant la parole à Jacques Bouvresse qui va traiter le sujet suivant, Karl Bühler et le mode de pensée axiomatique dans les sciences du langage.
Je dois avouer que j'ai quelques scrupules à me risquer à vous parler de Bühler après avoir entendu des choses aussi savantes, étant donné que je ne suis pas un spécialiste de Bühler et pas non plus un linguiste, je suis seulement un philosophe, mais je vais essayer néanmoins de vous présenter quelques réflexions sur Bühler et plus précisément sur une question qui m'a beaucoup intrigué en le lisant, c'est l'usage qu'il fait et que selon lui les sciences du langage devraient se décider sérieusement à faire de la méthode axiomatique. Donc j'étais amené à me poser la question de la signification exacte qu'il donne à cette expression, la pensée axiomatique, le mode de pensée axiomatique. Le 11 septembre 1917, Hilbert a donné à Zurich, à la Société suisse de mathématiques, une conférence intitulée précisément « Axiomatisches Denken », la pensée axiomatique, dont je vous ai traduit un extrait. Hilbert dit « Si nous considérons les faits d'un domaine déterminé, plus ou moins englobant du savoir, nous remarquons bientôt que ces faits sont susceptibles d'une mise en ordre. Cet ordre est obtenu à chaque fois par un certain dispositif spécialisé de concepts, ce qu'on appelle une Fachwerk von Begriffen, disons, on peut dire aussi un appareil conceptuel spécialisé, d'une manière telle qu'à l'objet singulier de ce domaine du savoir correspond un concept de ce dispositif, donc du dispositif conceptuel, et à chaque fait à l'intérieur du domaine du savoir, une relation logique entre les concepts. Le dispositif des concepts n'est rien d'autre que la théorie, soulignée, du domaine du savoir. C'est ainsi que les faits géométriques s'ordonnent en une géométrie, les faits arithmétiques en une théorie des nombres, les faits statiques, mécaniques, électrodynamiques en une théorie de la statique, de la mécanique, de l'électrodynamique, ou les faits de la physique, des gaz, en une théorie des gaz. Il en va de même avec les domaines scientifiques de la thermodynamique, de l'optique géométrique, de la théorie élémentaire de la radiation, de la conduction thermique, ou également des calculs des probabilités, et de la théorie des ensembles. Cela ne vaut en vérité pas moins pour les domaines scientifiques spéciaux purement mathématiques, comme la théorie des surfaces, la théorie des équations de Galois, la théorie des nombres premiers, que pour de nombreux domaines scientifiques qui se situent loin des mathématiques, comme certaines sections de la psychophysique ou la théorie de l'argent. Donc ce n'est pas moins vrai pour les premiers que pour les seconds. Si nous considérons... oui, c'est bien la théorie de l'argent, égale théorie. Si nous considérons de plus près une théorie déterminée, nous reconnaissons à chaque fois que la construction du dispositif spécialisé de concepts a pour fondement un petit nombre de propositions distinguées du domaine scientifique et que celles-ci suffisent ensuite à elles seules pour construire à partir d'elles, selon des principes logiques, le dispositif conceptuel tout entier. Alors, je vous ai cité ce passage de Hilbert parce que Bühler cite lui-même la dernière phrase de ce passage de Hilbert. Hilbert conclut sa conférence en remarquant que la forme achevée de toute science possible ne peut être que la théorie, au sens qu'il a indiqué, que la forme achevée de la théorie ne peut être que la forme axiomatique et que cette situation ne peut que confirmer la position directrice que les mathématiques sont appelées à occuper dans les sciences. Vous voyez par exemple ce passage, « Je crois que tout ce qui peut être l'objet de la pensée scientifique en général tombe, dès lors qu'il est mûr pour la construction d'une théorie, sous la juridiction de la méthode axiomatique, et du même coup indirectement des mathématiques, en pénétrant jusqu'à des couches qui se situent de plus en plus en profondeur, d'axiomes au sens qui a été expliqué plus haut, nous obtenons également des aperçus de plus en plus profonds sur l'essence de la méthode scientifique elle-même, et nous prenons toujours plus conscience de l'unité de notre savoir, sous le signe de la méthode axiomatique, les mathématiques apparaissent comme appelées à un rôle directeur dans la science en général. » Alors, il faudrait pouvoir commenter longuement la dernière affirmation, qui peut sembler un peu déconcertante, parce que Hilbert pourrait donner l'impression qu'au fond, il y a de science authentique à ses yeux, que dans la mesure où la science en question fait un usage essentiel des mathématiques. Ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire, ce qu'il dit est l'occasion de s'apercevoir qu'il y a deux aspects différents sur lesquels les mathématiques peuvent intervenir. Il y a la façon dont elles utilisent les mathématiques dans leur propre pratique. Et puis il y a un autre problème qui est lié à ce qui se passe quand on essaie d'axiomatiser une science dans le but de résoudre des problèmes métasystématiques comme la consistance, la complétude, la décidabilité, etc. Et pour ce faire, on est obligé de construire ce que Hilbert appelle une mathématique de la démonstration. Donc, à ce niveau-là, la notion de démonstration elle-même devient l'objet d'une forme de mathématique. Je dis ça parce qu'aucun de ces deux aspects n'est véritablement abordé par Bühler quand il se réfère à la méthode axiomatique. Et il aurait pu évidemment être amené à s'interroger sur le rôle exact que les mathématiques sont appelées à jouer dans la linguistique. Que ce soit, est-ce que la linguistique peut, est-ce que les sciences du langage peuvent devenir des sciences mathématiques au sens propre du terme? Et si on se décide à les axiomatiser, est-ce qu'il y a lieu ou non de se poser des questions qui relèvent de ce que Hilbert appelle la métamathématique, comme celle de la consistance, de la complétude, de la décidabilité? Vous vous doutez que ce n'est évidemment pas l'aspect qui intéresse véritablement Buller. Alors si j'ai cité Hilbert, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, Buller s'y réfère lui-même explicitement dans le chapitre 1 de la théorie du langage, intitulé « Conception et plan de l'axiomatique ». Il reproduit en note la dernière phrase du premier des passages que j'ai cité, où il est question de l'applicabilité de la méthode axiomatique à tous les domaines du savoir, en tout cas à ceux qui ont atteint un degré de développement suffisant, et il exprime son accord complet avec Hilbert sur le fait que le mode de pensée axiomatique peut et doit être appliqué à toutes les sciences, qu'elles soient a priori ou empiriques, et que son application est indépendante de la réponse qui peut être apportée à la question de savoir à quelle source de connaissances sont puisées les propositions que l'on choisit d'adopter au départ et de placer au fondement de l'édifice complet de la science. Ça, c'est une chose qui est dite très clairement et à maintes reprises. Par exemple, Buller dit ceci, dans l'axiomatique des sciences particulières, il s'agit de choisir quelles seront les idées initiales fructueuses, donc il s'agit de quelles sont les propositions initiales qu'il y a lieu d'adopter, pour des raisons qui seront jugées essentiellement en termes d'efficacité, de fécondité plus précisément. Quant à savoir à quelle source de connaissances ces propositions initiales sont puisées, c'est là une question qui excède le champ de l'axiomatique des sciences particulières. Donc c'est une question qu'il n'y a pas lieu d'essayer de résoudre dans ce contexte. Alors c'est au problème de l'axiomatique d'une science empirique particulière qu'il s'agit de s'attaquer, en l'occurrence la science du langage. Alors celle-ci en est arrivée à un stade où elle dispose incontestablement de ce que Hilbert appelle un dispositif conceptuel spécialisé, une Fachwerk von Begriffen, qui lui permet de déterminer et d'ordonner un domaine de fait bien délimité, mais elle n'a pas encore été en mesure d'effectuer le pas qui permet de passer de la théorie à la forme axiomatisée de celle-ci. Pour ce faire, elle doit procéder d'une façon qui n'est pas fondamentalement différente de celle dont l'ont fait les sciences qui l'ont précédée sur ce chemin. Autrement dit, elle doit commencer par analyser l'univers conceptuel dans lequel vivent et travaillent ces praticiens. C'est ce que Buller explique dans ce passage. C'est en dernière instance l'univers conceptuel du linguiste qu'il faut analyser afin de comprendre comment et pourquoi celui-ci est en mesure de donner à un domaine de fait bien circonscrit, mais inépuisable en détermination concrète, le domaine des événements de parole concrets, la forme d'un cosmos accessible à l'investigation scientifique. L'activité du linguiste est en cela toute semblable à celle du physicien qui y parvient dans son domaine propre avec ses moyens à lui, semblable à ce que réussit pour son objet de départ chaque science empirique définie ou chaque groupe de sciences empiriques au moyen d'un appareillage conceptuel chaque fois différent, adapté à l'objet. Donc la différence réside dans la nature différente, à chaque fois différente des appareils conceptuels utilisés, mais vous voyez que Buller affirme tout à fait clairement que le recours à la méthode axiomatique s'impose également dans tous les cas. Comme on l'a vu, la recherche des premiers principes doit s'effectuer sans que l'on ait à se préoccuper pour le moment de résoudre les questions qui relèvent de la théorie de la connaissance ou de l'épistémologie, comme celle de savoir, par exemple, où il faut faire passer la ligne de démarcation entre ce qui est a priori et ce qui est a posteriori dans la science considérée. Buller dit, nous proposons qu'on travaille avec des axiomes que, en ce qui me concerne, on peut considérer comme une explication purement phénoménologique ou comme la fixation épistémologiquement et ontologiquement neutre, et il souligne le mot, de propositions de base. On obtient ces propositions de base elles-mêmes à partir d'une réduction du matériel récolté par la science du langage fructueuse elle-même. Les axiomes sont les thèses constitutives qui définissent le domaine. Ce sont quelques idées de nature inductive, qui charpentent nécessairement tout domaine de recherche. Et il dit aussi que ce qui a dans l'ensemble orienté la recherche, ce sont des conceptions fructueuses d'un rang équivalent à celles issues de l'analyse mathématique des phénomènes naturels, même si leur formulation reste souvent imparfaite. Donc, comme vous le voyez, il pose, comme allant pratiquement de soi, dès le départ, qu'il n'y a pas lieu d'établir une distinction stricte entre le cas des sciences de la nature et celui des sciences, entre les Naturwissenschaften et les Geisteswissenschaften, comme on dit en allemand, c'est un aspect sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Et ça signifie en particulier qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction stricte entre les sciences qu'on a l'habitude de, entre le cas des sciences qu'on a l'habitude de considérer comme a priori, c'est-à-dire la logique et les mathématiques. Je veux dire, pour ce qui est du rapport à l'axiomatique et au problème de l'axiomatisation, il n'y a pas lieu de faire une distinction stricte donc entre ces, les sciences qu'on a tendance à qualifier d'a priori, ça inclut la philosophie d'ailleurs, dans l'idée qu'on se fait généralement d'elle, et puis les sciences qui sont clairement empiriques, et c'est le cas de la linguistique. Alors la préoccupation de Bullard pour la question de l'axiomatisation n'est évidemment pas sans rapport avec le caractère véritablement encyclopédique de son approche du langage. Un auteur qui est comme lui capable de s'intéresser simultanément à peu près à tous les aspects de la science du langage et à toutes les disciplines qui s'efforcent d'en rendre compte est probablement tenté plus naturellement que d'autres d'essayer en même temps de leur trouver une unité réelle et un fondement commun, et il est également mieux équipé pour y parvenir. Si on peut risquer une comparaison de cette sorte, un mathématicien universel comme l'était Hilbert et un penseur du langage universel comme l'était Bühler seront plus sensibles que les spécialistes qui restent cantonnés à l'intérieur des limites d'une discipline particulière. Ils seront plus sensibles à l'idée que, comme le dit Hilbert, il faut essayer de temps en temps de mettre de l'ordre, non pas simplement à l'intérieur des différents états, mais également entre les états eux-mêmes. Autrement dit, il faut essayer de ramener la totalité de la science à un petit nombre de principes fondamentaux à partir desquels la relation de ces parties puisse être mieux comprise qu'elle ne l'est la plupart du temps. En ce qui concerne Bühler, comme il était dit dans un article qui est paru en 1980, j'ai cherché un peu, c'est une conférence qui a été faite à Kirchberg, un des colloques de la société, organisé par la société Wittgensteinienne. Et donc là, vous avez un exemple de quelqu'un qui avait d'abord fait l'effort de s'intéresser à Bühler, qui soulignait en particulier ce côté universel de la théorie du langage de Bühler. La théorie du langage de Bühler, de Karl Bühler, est à bien des égards une anticipation extraordinairement remarquable d'un bon nombre de thèmes centraux et de positions de problèmes centrales qui ont été mis à nouveau en discussion, qui n'ont été mis à nouveau en discussion, pardon, que dans les dernières années. Bühler s'efforce, dans sa théorie du langage, de prendre en considération toutes les disciplines qui s'occupent du langage. C'est l'effort fait par un encyclopédiste pour appréhender le tout du langage. Comme base pour sa théorie du langage, Karl Bühler essaie de créer les présupposés requis pour une linguistique empirique. Il formule quatre principes. Le premier, le modèle instrumental, das Organon Modell. Là, j'ai repris la traduction de Didier Samin. Donc, le modèle instrumental, das Organon Modell du langage. Le deuxième, la nature sémiotique, die Zeichen Natur, du langage. Et le quatrième, mot et phrase, Wort und Satz. Le troisième, principe fondamental, le schéma des quatre champs, das Vierfelder Schema, contient, c'est une citation, les quatre composants de l'objet total des sciences du langage, action de parole, Sprechhandlung, œuvre langagière, Sprachwerk, acte de parole, Sprechakt, et structure langagière, Sprachgebilde. Bühler ne se demande pas si la différence de nature que certains ont tendance à faire entre les Naturwissenschaften et les Geisteswissenschaften ne devrait pas nous dissuader d'utiliser comme référence et comme modèle la façon dont les choses se sont passées historiquement dans le cas d'une science comme la physique. Autrement dit, ça ne doit surtout pas nous détourner de l'idée d'appliquer bel et bien l'usage de la méthode axiomatique au cas des sciences du langage. Ce que j'ai en vue, dit-il, est parfaitement clair dans le cas des sciences de la nature. Il est d'usage de considérer que la physique moderne est née à l'instant où fut conçue l'idée que les phénomènes naturels étaient intégralement analysables en termes quantitatifs mathématiques. Les thèses de Galilée, le ubi materia ibi geometria de Kepler, définissent les lignes générales d'un programme auquel nous sommes restés fidèles et auquel sont dus les succès de la physique. Parmi les tentatives classiques d'articuler en un système d'axiomes le principe keplérien, qui restait fort peu défini, on peut compter aussi bien la philosophie naturelle de Newton que la critique de la raison pure de Kant ou la théorie de l'induction chez Stuart Mill. Même pour les empiristes absolus, il y a des axiomes. Donc même les empiristes absolus sont obligés de recourir à la méthode axiomatique. Et là, vous pouvez observer, constater la signification extrêmement étendue que Bühler donne à l'idée de la pensée axiomatique et du mode de pensée axiomatique, puisqu'il classe... Il classe sous cette rubrique, il classe comme relevant de la pensée axiomatique Une entreprise comme celle de Kant, dont Jubinet a dit que ça consistait à essayer de développer, d'expliciter le système des actes transcendantaux qui rendent possible la mécanique rationnelle, l'entreprise de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, c'est-à-dire une entreprise qui consiste à essayer de formuler les principes mathématiques de la philosophie naturelle, ce qui, comme vous savez, à l'époque correspond à la physique, et l'entreprise de Mill, qui, lui, a essayé d'expliciter donc, les principes fondamentaux qui définissent ce qu'on peut appeler la méthode inductive. Hein. Tout ça, dans l'esprit de Buller, tombe sous la catégorie de la pensée axiomatique. Comme vous l'avez vu, la question importante pour Buller n'est pas de savoir si les fondements doivent être philosophiques plutôt que proprement scientifiques ou a priori plutôt qu'empiriques. Comme il le dit, la dignité logique des fondements, c'est lui qui le dit explicitement, la dignité logique des fondements d'une science empirique, y compris lorsque c'est de la science du langage qu'il s'agit, n'exige pas que le caractère a priori de ces principes puisse être démontré. La dignité logique d'un axiome ne réside pas dans la façon particulière dont sa propre vérité peut être établie, mais dans la façon dont celles d'autres propositions de la science peuvent être établies logiquement à partir de lui. Cela n'aurait donc pas grand sens de se demander, par exemple, si les quatre principes axiomatiques que Buller propose d'adopter, au moins pour le moment, comme réponse à la question qu'il formule, de se demander s'ils ne relèvent pas plutôt de la philosophie de l'objet concerné, à savoir la philosophie du langage, voire même de la métaphysique du langage, que de la science du langage proprement dite. Ces quatre principes, qui sont désignés par les lettres A, B, C et D, sont développés et justifiés dans quatre chapitres distincts de la théorie du langage, les chapitres 2, 5, qui portent dans la théorie du langage les titres que vous avez sous les yeux, donc le principe A, le modèle instrumental, le principe B, la nature sémiotique, die Zeichen Natur du langage, le principe 4 donc, est exposé dans un chapitre intitulé « Action de parole et œuvre langagière »,« Acte de parole et structure langagière », c'est donc le principe C, et enfin le principe D est développé dans le chapitre « Mots et phrases de système SC du type du langage ». Entre l'article de 1933, Buller avait commencé par publier dans les Kernstudien un article intitulé « Die Axiomatik der Sprachwissenschaften » qui a été reproduit par Klostermann. Mais pour des raisons qui m'échappent, Klostermann n'a pas reproduit le préambule. Il a dû estimer que c'était une adjonction négligeable, ce que je conteste formellement, mais je ne veux pas me lancer dans des considérations. Dans une comparaison, je n'ai pas l'intention de me lancer dans une comparaison systématique entre le texte de 1933 et sa reprise en 1934, donc dans la théorie du langage. Ce qui est certain, c'est qu'entre l'article de 1933 et la version qui a été reproduite dans la théorie du langage, Buller a modifié à la fois la numérotation des principes et l'intitulé des chapitres qui leur sont consacrés. Par exemple, celui qui occupe la première place, donc le modèle instrumental, a figuré en dernier dans l'article des Kernstudien et il était intitulé « Le schéma des fonctions linguistiques »,« Das Schema der Sprachfunktionen ». Donc je ne vais pas m'attarder sur les raisons qui ont pu modifier ce changement et je me contenterai d'insister sur le fait que pour autant que chacun des principes puisse être condensé dans une proposition simple, ce que un logicien appellerait un axiome, de préférence en langage formel si possible, donc pour autant que chacun de ces principes puisse être condensé dans une proposition simple, il s'agit d'une proposition qui est d'un type extrêmement abstrait et général et dont le contenu peut sembler suffisamment philosophique ou même métaphysique pour susciter des objections auxquelles Buller va s'efforcer de répondre. C'est particulièrement vrai, par exemple, d'un principe comme ce qu'il appelle le principe de la nature sémiotique du langage, principe qui affirme la nature, die Zeichen Natur, hein, la nature de signe, ou sa nature, on pourrait presque dire, signifique du langage. Donc ce sont des principes, enfin celui-là en particulier, dont je crois personne ne pourrait songer à contester sérieusement la légitimité. Alors en ce qui concerne les objections qui peuvent être formulées du point de vue philosophique, Buller consacre un certain nombre de pages à essayer d'y répondre, et il le fait en soulignant que les assumptions ontologiques, philosophiquement discutables, par exemple platoniciennes ou semi-platoniciennes, dont peuvent sembler dépendre les axiomes de la science linguistique, ne peuvent pas plus être utilisées contre eux, contre ces axiomes, qu'elles ne peuvent l'être dans le cas des axiomes des mathématiques pures ou de la physique. Autrement dit, il affirme que les linguistes ont le droit de se pourvoir d'axiomes qui s'autorisent absolument toutes les libertés que se sont autorisées leurs prédécesseurs dans le cas des sciences de la nature. Le fait que les principes fondamentaux de la science du langage doivent être généraux et abstraits n'a rien de surprenant, puisqu'ils doivent pouvoir s'appliquer à toutes les langues, indépendamment de leurs particularités concrètes. Buller dit par exemple ceci, « Le premier point à souligner dans une analyse générale est l'équivalence structurelle fondamentale de toutes les langues connues et étudiées. L'emploi du singulier, le langage, est sémantiquement fondé et on peut le justifier. Nous allons formuler quatre principes concernant le langage qui valent pour toutes les langues particulières. Je crois que ces principes devraient être non seulement suffisamment larges, mais aussi suffisamment précis et qu'ils devraient définir un cadre d'équivalence dans lequel toutes les différences effectives puissent être inscrites de manière systématique. Telles sont la croyance et l'espoir que je place dans ce livre. » Le livre, c'est précisément la théorie du langage. Alors, je reviendrai plus tard sur la façon dont Buller écarte l'objection qui consiste à faire remarquer que les objets auxquels il fait référence dans les axiomes, comme par exemple la structure langagière, c'est la traduction qui a été adoptée par Didier Samin pour l'expression d'Asprachgebilde, donc les objets de cette sorte hein, auxquels il fait référence dans les axiomes ne sont pas des objets concrets, mais des objets idéaux. Juste un passage concernant cette question, enfin deux plus exactement. Ce que le linguiste, note Buller, détermine dans ses livres fondamentaux ne peut être rien d'autre que des abstracta et des generalia, et cela a encore à un autre égard une propriété ou fonction que Platon a attribuée à ses idées. Que nous réinterprétions le éternellement et immuablement en intersubjectivement, et que nous trouvions par là de quoi nous contenter et enlevions le fait d'habiter un lieu suprasensible, selon le modèle d'Aristote. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réinterpréter le platonisme à la façon d'Aristote. Donc, que nous le réinterprétions de cette façon n'a besoin d'être dit que pour exclure des malentendus. Donc, on assume le platonisme, mais pour éviter les malentendus, on consent à le réinterpréter. Alors là, il y a toute une discussion qu'on pourrait avoir. Concernant le choix que fait Buller, pour le résumer d'un mot, il estime que la science du langage, il y a une chose qu'elle doit écarter à tout prix, de toute façon, c'est le nominalisme radical. La question de savoir si elle peut s'en sortir à l'aide d'un conceptualisme même modéré, ou bien si elle doit aller jusqu'à une forme de platonisme ou de semi-platonisme, est une question qui préfère laisser ouverte. Ça fait partie du principe de neutralité qui a été mentionné au début. Donc, la seule chose qui ne semble pas discutable aux yeux de Buller est l'obligation d'écarter le nominalisme radical et d'accepter d'emblée, au moins, une forme de conceptualisme modéré. Ce que, d'ailleurs, d'après lui, toutes les sciences ont consenti à faire. Alors, une question qui se pose à peu près inévitablement ici est celle que soulève Quine quand il suggère que nous essayons de distinguer un peu plus clairement qu'on ne le fait d'ordinaire entre deux espèces de postulations, qu'il appelle la postulation législative et la postulation simplement discursive. Alors la distinction est exposée dans cet extrait. Quine dit pour autant que nous voulions épistémologiser et non pas simplement mathématiser, nous pourrions diviser la postulation comme suit. Les postulats non interprétés peuvent être mis de côté comme ne nous concernant plus. Et du côté interprété, nous pouvons distinguer entre la postulation législative et la postulation discursive. La postulation législative institue la vérité par convention, et autrement dit, elle institue la vérité en formulant des axiomes et en en déduisant des conséquences, et elle semble illustrée de façon plausible par la théorie des ensembles contemporains. D'un autre côté, la postulation discursive est une simple sélection à partir d'un corpus préexistant de vérité, de certaines de celles-ci pour être utilisées comme base à partir de laquelle peuvent être dérivées les autres, initialement connues ou non connues. Ce que fixe la postulation discursive n'est pas la vérité, mais seulement une mise en ordre particulière des vérités, peut-être à des fins de pédagogie ou de recherche sur les relations logiques, logique au sens de la logique élémentaire. Toute postulation est bien entendu conventionnelle, mais seule la postulation législative nous oriente, à proprement parler, vers la vérité soulignée par convention. C'est dans un article consacré à intitulé Carnap et la vérité logique, qui est consacré précisément à la question de savoir dans quelle mesure on peut dire des vérités logiques qu'elles sont conventionnelles. Alors, il m'a semblé qu'il n'était pas tout à fait incongru de se poser la question de savoir si l'utilisation de la méthode axiomatique, dans le cas des sciences du langage, telle que la conçoit Buller, si il faut la considérer comme relevant plutôt de la postulation législative ou de la postulation discursive. Vous allez comprendre, je crois, tout de suite pourquoi je me suis posé cette question. Il est clair que, même si la question de la distinction entre les vérités factuelles et les vérités par convention ne concernent pas aussi directement les sciences empiriques, dans lesquelles les axiomes sont clairement des vérités factuelles et ont une origine inductive, donc ne concernent pas aussi directement ce type de sciences que les sciences mathématicologiques, comme la théorie des ensembles. On ne peut cependant pas échapper complètement à l'obligation de se demander si les axiomes de la science du langage ont pour fonction uniquement d'instaurer un certain ordre à l'intérieur d'un système de vérités préexistantes, ou bien également d'instituer des vérités fondamentales d'une certaine sorte à propos des objets de la science en question. Le problème se pose de façon encore plus inévitable si on prend au sérieux l'idée que certaines sciences opèrent sur des objets qui sont donnés d'avance, mais que ce n'est pas le cas de la science du langage, qui ne peut opérer que sur un objet qu'elle a dû d'une certaine façon, et dans un certain sens du mot qui reste encore à préciser, un objet qu'elle a dû créer. Les axiomes peuvent, semble-t-il, servir à sélectionner un objet préexistant, mais ils ont été souvent compris aussi comme consistant à donner naissance à un objet par un processus de décision plus ou moins arbitraire. C'est ce qu'on a souvent à l'esprit quand on explique que les axiomes constituent ce qu'on appelle une définition explicite des objets concernés, et c'est compris quelquefois comme, Hilbert a cette tendance à certains moments, comme si les axiomes avaient la capacité de donner naissance, en quelque sorte, aux axiomes en question, ce qui a indigné Frege, hein, qui considère que ça revient à attribuer un pouvoir magique à la définition. Donc, qu'en est-il des axiomes du genre de ceux auxquels songe Buhler? Si les axiomes sont en mesure de créer des objets, ce que, encore une fois, Frege a contesté assez violemment, ne sont-ils pas en mesure de créer également des vérités, à savoir celles qui ont trait aux objets auxquels on leur prête le pouvoir de conférer l'existence? D'une certaine façon, le mode de pensée axiomatique risque de rendre encore plus tentante l'idée que le point de vue, en l'occurrence le point de vue axiomatique, adopté sur le langage, a pour effet de créer un objet et des vérités qui n'existeraient pas sans lui. Je crois d'ailleurs que quelqu'un hier a fait remarquer que d'une certaine façon, les axiomes chez Buhler remplaçaient les points de vue chez Saussure. Alors, vous voyez, ce passage de Saussure, archi-connu, bon, il est souvent cité, d'autres sciences opèrent sur des objets donnés d'avance et qu'on peut considérer ensuite à différents points de vue. Dans notre domaine, rien de semblable. Quelqu'un prononce le mot français nu, un observateur superficiel sera tenté d'y voir un objet linguistique concret, mais un examen plus attentif y fera trouver successivement trois ou quatre choses parfaitement distinctes selon la manière dont on le considère comme son, comme expression d'une idée, comme correspondant au latin nudum, etc. Bien loin que l'objet précède le point de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée l'objet. Il y a peu de phrases que j'ai entendues citer aussi fréquemment dans ma jeunesse, et généralement par des gens qui étaient très peu disposés à essayer d'expliquer ce que ça pouvait réellement vouloir dire. Bien loin que l'objet précède le point de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée l'objet, et d'ailleurs rien ne nous dit d'avance que l'une de ces manières de considérer le fait en question soit antérieure ou supérieure aux autres. Comment faut-il comprendre exactement cette formule, si souvent citée encore une fois de Saussure, qui énonce que dans le cas de la science du langage, le point de vue, loin d'être un point de vue sur un objet préexistant, doit d'abord créer l'objet lui-même? Il est vrai que ce n'est peut-être pas exactement ce que veut dire Saussure, que le point de vue crée littéralement l'objet, puisqu'il se contente de suggérer plutôt que tout se passe comme si, hein, on dirait que tout se passe comme si le point de vue, en quelque sorte, crée l'objet. La question se pose en tout cas de savoir ce qui peut bien empêcher au juste de dire que, comme dans le cas le plus courant, on a affaire à un même objet qui peut être seulement, qui peut seulement être considéré à différents points de vue ou sous différentes perspectives. Un point de vue différent peut certes faire apparaître un objet différent, mais qu'est-ce qui oblige exactement à aller jusqu'à dire, dans le cas concerné, de façon plus ou moins littérale, qu'il le crée? La réponse bien connue de Saussure à la question de savoir pourquoi c'est ce qu'il appelle la langue, plutôt que n'importe quel autre candidat auquel on pourrait songer à première vue, pourquoi c'est la langue qui doit être choisie comme étant le véritable objet de la science du langage, et que c'est seulement en se plaçant sur le terrain de la langue et en la prenant comme norme de toutes les autres manifestations du langage que nous pouvons réussir à instaurer un ordre naturel à l'intérieur de l'amas confus que constitue l'ensemble des faits de langage. La langue est l'objet véritable de la science du langage avant tout parce qu'elle est le seul principe de classification qui permet de les ordonner d'une façon qui ne soit pas trop artificielle et conventionnelle. Du point de vue philosophique et épistémologique, Saussure raisonne d'une façon qui pourrait, semble-t-il, encore être qualifiée au sens large de kantienne. Mais à l'époque où écrit Buhler, c'est, d'après lui, une perspective à laquelle la science du langage a renoncé pour se rapprocher plutôt de celle des logiciens et des mathématiciens comme Russell et Hilbert, qui sont cités tous les deux. Incidemment, je remarque que ce pauvre Russell a été dépossédé une fois de plus de son deuxième L, dans la traduction française malheureusement, mais également dans la version originale allemande. Pas dans le texte, mais dans l'index. Alors, ça, c'est la faute d'orthographe dans l'écriture des noms propres qui est probablement la plus répandue et la plus impossible à éradiquer. Ça, il n'y a rien à faire, on est obligé de mener des batailles homériques contre les éditeurs pour obtenir qu'ils mettent ces deux L mérités à ce pauvre Russell. Bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, donc, c'est le changement d'orientation que Buhler se considère comme autorisé à affirmer. Hein, on ne procède plus aujourd'hui, dit-il, tout à fait comme le faisait Kant. Et peut-être y a-t-il une sagesse ultime dans ce que l'on peut inférer de manière générale de tentatives comparables à l'époque moderne. Donc il vaut peut-être pas mieux ne pas trop réessayer ce que Kant avait tenté à son époque. Des hommes comme Russell ou Hilbert se représentent la recherche des fondements en sciences empiriques comme consistant à recueillir des données et des théories disponibles, soulignées, et à les soumettre à une procédure de réduction logique. Donc c'est ça qu'on appelle aujourd'hui axiomatiser une science. C'est le premier pas de la pensée axiomatique. Il ne s'agit pas seulement, dans le cadre du tournant que j'envisage, de la réaliser factuellement en jetant au panier le brouillon de cette réalisation, mais il s'agira d'en rendre compte. Puisque Buhler mentionne lui-même Russell, il ne dit pas à ma connaissance à quels ouvrages de Russell il pense plus particulièrement, mais puisqu'il mentionne Russell, il n'est peut-être pas inutile de donner quelques indications sur la façon dont celui-ci comprend pour sa part l'usage de la méthode axiomatique et la contribution que cet usage est susceptible d'apporter à la résolution du problème des fondements pour une science donnée ou pour la science en général. Ce qui intéresse Buhler est, pour des raisons évidentes, le point de vue de Russell et de Hilbert sur la recherche des fondements en science empirique. Mais ce que l'on peut dire à propos de ce cas s'applique dans une certaine mesure aussi bien pour Russell au cas des sciences mathématiques elles-mêmes. Si on reste tributaire du point de vue kantien, on peut être tenté de dire, comme le fait Saussure, que dans certains cas au moins, le point de vue crée l'objet, puisque ce que nous connaissons dépend d'une certaine façon de la manière dont nous pouvons connaître et connaissons effectivement. Or, d'après Russell, il faut inverser exactement cette perspective. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans l'histoire de mes idées philosophiques, en anglais My Philosophical Development, je renverse la méthode qui, depuis Kant, est communément employé en philosophie. Il est usuel parmi les philosophes de commencer par la question de savoir comment nous connaissons et de passer ensuite à la question de ce que nous connaissons. Comment dire, on ne peut pas prétendre connaître si on n'a pas commencé par essayer d'avoir les idées claires sur la façon dont on peut le connaître et dont on réussit à le connaître effectivement. Russell soutient que nous devrions faire exactement le contraire. Je pense que c'est une erreur parce que la connaissance de la manière dont nous connaissons est un petit secteur, c'est même pas forcément un secteur très important, la connaissance de la manière dont nous connaissons est un petit secteur de la connaissance de ce que nous connaissons. Il y a une formule aussi de Hao Wang, que je cite souvent, qui dit « Nous en savons plus sur ce que nous savons que sur la manière dont nous le savons. » C'est-à-dire, nous sommes plus certains de le savoir que certains de la manière dont nous le savons, effectivement. Alors, évidemment, il y a quelque chose chez Buhler qui va tout à fait dans ce sens-là. Hein, quand il dit il faut partir des sciences telles qu'elles existent, à partir du moment où elles ont atteint... Ils ont pris la forme d'une théorie et les axiomatiser, ben, ça veut dire essentiellement procéder à une sorte de réduction logique du matériau disponible. Et il ne faut surtout pas commencer par s'apesantir de façon interminable sur la question cul de juris, hein, pour reprendre la distinction que fait Kant. Alors une conséquence qui résulte du fait que le genre de connaissances auxquelles nous sommes susceptibles de parvenir, en réponse à la question des fondements et aux questions fondamentales en général, du fait donc que ce type de connaissance n'est qu'une petite partie du secteur de la connaissance au sens usuel et que les principes fondamentaux sont justifiés beaucoup moins par leur évidence intrinsèque que par le nombre et la diversité des conséquences que l'on peut en déduire, et ils ont un statut qui n'est pas fondamentalement différent de celui des hypothèses scientifiques en général. Vous voyez par exemple ce passage très, très étonnant à certains égards de Russell, hein, de façon générale, nos raisons de croire la logique et les mathématiques pures sont pour une part seulement inductives. On a tendance à croire évidemment qu'il n'en est rien, que la logique et les mathématiques sont le prototype des sciences a priori. Et là, Russell dit clairement que, de façon générale, nos raisons de croire les propositions de la logique des mathématiques pures sont pour une part seulement inductives et probables, en dépit du fait que dans leur ordre logique, les propositions de la logique des mathématiques pures découlent des prémices de la logique par pure déduction. Donc, vous voyez, il n'y a pas, pour eux seuls, il n'y a évidemment pas le genre d'abîme hein, qu'on serait tenté de reconnaître entre les sciences a priori d'un côté et les sciences empiriques de l'autre pour ce qui concerne cette question. Ça n'empêche pas, évidemment, les propositions de la logique et des mathématiques, le fait qu'elles soient déductibles d'un petit nombre de propositions initiales, ne les empêche pas de conserver, en même temps que les conséquences qui en sont déduites, de conserver une validité qui comporte de façon, une façon qui peut être et rester essentielle, un aspect inductif et même, dire seul, probabilitaire. Alors, en ce qui concerne Buller, il a cette affirmation très remarquable hein, en ce qui concerne ce que l'on peut attendre au juste de l'axiomatique. Il s'agit de renouveler notre compréhension de ce qui constitue le succès du métier de linguiste. Donc il faut tenir le succès en question pour acquis, et surtout pas commencer par s'apesantir sur la question de savoir comment a-t-il été possible, est-il aussi réel qu'on le croit, etc. Il faut le tenir pour acquis et il faut essayer de le mieux comprendre. Alors les principes proposés pour la science du langage ne constitue donc pas véritablement une augmentation de la connaissance, au sens propre du terme, de la connaissance dont nous disposions déjà dans ce domaine. Vous voyez ce que dit Buller. Nous énonçons dans ce qui suit une série de propositions qui revendiquent soit d'être déjà elles-mêmes considérées comme des axiomes de la science du langage, soit, à défaut, de servir de base et de point de départ à la poursuite des efforts théoriques pour élaborer un système complet de tels axiomes. Pareille entreprise est nouvelle dans sa forme. En revanche, la teneur des propositions n'est en aucune façon nouvelle et ne saurait l'être vu la nature de l'objet. Car les positions qu'on adopte à l'égard de l'objet langage, lorsqu'on reconnaît ces propositions, sont et furent celles adoptées par les linguistes depuis qu'existe une science du langage. Certaines questions, qu'on ne peut formuler qu'à partir de ces positions, ont été formulées et ont trouvé une réponse. D'autres, qu'on ne formule pas, car elles seraient dépourvues de sens de ce point de vue, n'ont jamais été posées. Et ainsi de suite. On peut prétendre, avec quelque apparence de raison, que, en particulier dans la période la plus récente de son histoire, plus que centenaire, la science du langage a été elle aussi consciente du chemin qu'il convient à la recherche d'emprunter. Donc c'est ce chemin-là que, selon lui, il faut emprunter et qu'on a du reste déjà commencé à emprunter. Effectivement, certains des principes les plus fondamentaux que Buller propose d'adopter remontent, il le souligne lui-même, au moins à Platon et Aristote, et ils ont été acceptés, ne serait-ce qu'implicitement, à peu près depuis le début, par la science du langage. De l'axiomatique telle que la comprend et l'utilise Buller, Elisabeth Brucker, dans l'introduction qu'elle a rédigée pour la réédition du texte de 1933, donc « Die Axiomatik der Sprachwissenschaften », elle écrit ceci, donc il s'agit de l'axiomatique que Buller propose d'utiliser. Il lui est interdit de « poser » entre guillemets des axiomes, elle doit les chercher. Ces principes ne sont pas au début de la recherche sur le langage comme proposition directrice pour la progression de celle-ci, mais doivent être dégagés régressivement, soulignés, du stock de connaissances déjà obtenues, ils doivent en être dégagés comme étant les principes demeurés jusqu'à présent cachés sur lesquels ils reposent, donc ce stock de connaissances. C'est seulement après cela qu'ils peuvent fournir un fil conducteur, non pour le travail positif des sciences du langage, mais bien pour notre compréhension de ce que signifie ce travail et de la contribution qu'il apporte à l'élucidation des phénomènes linguistiques. La postulation à laquelle on a affaire n'est donc pas législative, semble-t-il, mais uniquement explicative et discursive. Et étant donné la façon dont Buller comprend le rôle des principes fondamentaux qui sont au fondement de la science du langage, il n'est pas surprenant qu'il ne soit pas tourmenté par la question de savoir s'ils appartiennent à la science elle-même, et non pas plutôt à la théorie de la science, Wissenschaftslehre, à la théorie de la science elle-même, ou même peut-être encore tout simplement à la philosophie du langage. Donc il ne se préoccupe pas tellement de savoir si ces premiers principes doivent être rangés, classés dans l'une ou l'autre de ces catégories. Les axiomes, dans le cas des sciences du langage, n'ont rien à voir avec des stipulations plus ou moins conventionnelles et qui pourraient être adoptées plus ou moins librement. Ils ne sont pas inventés, mais doivent être découverts dans la pratique scientifique elle-même. Et on peut même dire d'eux qu'on ne les chercherait pas si on ne les avait pas, d'une certaine façon, déjà trouvés et appliqués, plus ou moins, sans le savoir, dès le début. Il pourrait sembler qu'il y a sur ce point une différence essentielle avec la façon dont la méthode axiomatique est utilisée dans le cas des théories mathématiques pures, en tout cas dans une théorie comme la théorie des ensembles, où les axiomes peuvent donner l'impression d'être essentiellement posés et d'avoir le pouvoir d'instituer des vérités qui sont susceptibles de changer lorsqu'on passe d'une théorie des ensembles à une autre et par le fait d'un concept d'ensemble à un autre. Mais il est clair que si on adopte, si on consent à adopter un point de vue comme celui de Bertrand Russell, on devra admettre que la différence est loin d'être, entre ces deux cas est loin d'être aussi radicale qu'on pourrait être tenté de le croire. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, comment faut-il comprendre ce que Buller appelle la plainte méthodologique de Saussure, la plainte ou la complainte méthodologique de Saussure, c'est-à-dire la déploration qui est formulée par Saussure à propos de la difficulté qu'éprouve encore la science du langage à se doter d'un objet qui puisse être appelé véritablement son objet. Voyez ce passage où la question est évoquée de façon tout à fait directe. Ainsi, dit Buller, de quelque côté que l'on aborde la question... Pardon, c'est Saussure qui parle, excusez-moi, c'est pas Buller, c'est Saussure. Ainsi, de quelque... C'est du reste un passage extrêmement célèbre. De quelque côté que l'on aborde la question, nulle part l'objet intégral de la linguistique ne s'offre à nous. Partout, nous rencontrons ce dilemme, ou bien nous nous attaquons à un seul côté de chaque problème et nous risquons de ne pas percevoir les dualités signalées plus haut, ces fameuses dualités signalées plus haut, effectivement, sur lesquelles je ne m'attarde pas, ou bien, si nous étudions le langage par plusieurs côtés à la fois, l'objet de la linguistique nous apparaît un amas confus de choses hétéroclites sans lien entre elles. C'est quand on procède ainsi qu'on ouvre la porte à plusieurs sciences, psychologie, anthropologie, grammaire normative, philosophie, etc., que nous séparons nettement de la linguistique, mais qui, à la faveur d'une méthode incorrecte, pourraient revendiquer le langage comme un de leurs objets. Sur le fondement réel de la plainte que fait entendre ici Saussure, Buller se montre sceptique, parce qu'il pense que la difficulté qu'elle évoque a bel et bien été surmontée dans les faits, elle a été depuis un bon moment déjà. Saussure se plaint d'avoir en main, en quelque sorte, les mêmes bras d'Isjecta provenant de domaines du savoir qui ont des origines complètement différentes, et il pense qu'il lui faut créer à partir d'eux quelque chose d'homogène, susceptible de devenir l'objet d'une science unique qui mérite d'être appelée la science du langage. Mais comment peut-on créer une chose de ce genre si elle n'est pas déjà donnée, en fait, au moins dans la pratique des spécialistes qui s'intéressent au langage? C'est ce que suggère clairement Buller, qui dit ceci: « S'il nous est permis de dire un mot à ce sujet, du point de vue formel, on ne peut fournir que deux réponses à cette plainte méthodologique, soit ce qu'on nous dit des fragments disparates de savoir est exact, mais la plainte n'en est pas moins injustifiée, car la miraculeuse puissance d'articulation du linguiste lui permet de construire réellement une science unique à partir de pièces hétérogènes de savoir, soit c'est la présupposition qui est fausse, qui veut que le linguiste commence systématiquement par observer avec les yeux des autres son objet de recherche, tantôt avec les yeux du physicien et du physiologiste, puis tantôt avec ceux du psychologue de l'expérience vécue, puis du sociologue, de l'historien, et ainsi de suite. Je ne suis pas certain que ce soit une réponse tout à fait convaincante, mais je ne veux pas m'attarder directement sur ce point. Alors, on voit bien que d'après Buller, il y a dans cette affaire, il y a ici une apparence de problème, parce qu'au moment où écrit Saussure, la linguistique peut sembler encore très éloignée d'avoir trouvé un principe comparable à celui qui a permis à une science comme la physique de se doter d'un objet autonome et d'une méthode appropriée pour le traiter. Dans une discussion sur ce qu'il appelle le principe de pertinence abstractive, dont il a déjà été souvent question, Buller écrit ceci, j'ai traduit un assez long extrait, j'espère que vous arriverez à peu près à le lire, bien que ce soit un peu petit. Il dit ceci: pour ce qui concerne les signes linguistiques, avant mon contact avec la phonologie, j'en étais arrivé avec mon travail personnel sur les problèmes de la théorie du langage, au point où des conséquences tirées d'une multitude de faits convergeaient vers la proposition clé concernant la nature sémiotique, du langage. Seul le bloc tout entier de la phonétique ne me semblait pas s'intégrer, donc ce bloc-là résistait. Il semblait ne pas s'intégrer à cette connaissance selon laquelle l'objet des sciences du langage appartient sans reste à la sématologie, de la même façon que l'objet de la physique appartient aux mathématiques. Le ubi materia ibi geometria de Kepler régule et détermine sans reste la procédure et les résultats de la physique. En revanche, la phonétique des linguistes semblait être frappée d'une autre façon que le reste de la grammaire. Donc, semblait appartenir à une catégorie fondamentalement différente. L'étonnement philosophique et épistémologique suscité par ce fait s'est révélé fécond et la perplexité a été résolue lorsque le traité programmatique de Trubetskoy, zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme, donc théorie générale des systèmes vocaliques phonologiques. Lorsque donc ce texte m'est arrivé entre les mains, il y avait là, d'un coup, une contribution bien fondée à la théorie des sons linguistiques, avec autour d'elle l'horizon d'une discipline nouvelle, bien arrondie, abgerundet, si je crois il dit en allemand, dans le domaine des sciences du langage, donc une discipline nouvelle qui n'avait pas le caractère de la phonétique et apportait ce que je cherchais. On peut donc, et on doit diviser le traitement des sons linguistiques, exactement comme l'exige l'intuition logique, ils peuvent être traités tantôt comme ce qu'ils sont, pour eux-mêmes, entre guillemets, et sous l'aspect de leur rôle qui consiste à fonctionner comme signe, ça c'est le deuxième aspect, la phonétique fait la première chose et la phonologie la deuxième. Le concept élément phonique, sous lequel on a l'habitude de subsumer les voyelles et les consonnes, est défini de façon utilisable seulement par la conception de la phonologie, de sorte que l'on se rend compte qu'il n'y a dans chaque langue qu'une multiplicité dénombrable, un système transparent de signes sonores discrets, vocaliques, consonantiques et autres. Leur fonction sémantique est, conformément à la proposition que j'ai faite aux phonologues, de servir d'éléments diacritiques des phénomènes complexes qu'on appelle mots. Les phonèmes sont les marques, mâles, les caractères naturels auxquels, dans le flux sonore de la parole, les unités déterminantes de ce flux sonore sont reconnues et dissociées les unes des autres. Il se peut que Buller ait écrit ça d'un moment d'enthousiasme initial et qu'il soit ensuite un petit peu revenu sur espèce d'adhésion inconditionnelle hein, qui semble apporter à la théorie défendue par la théorie proposée par Trubetskoy. Donc la relation qui existe entre la phonétique et la phonologie, si on accepte ce point de vue, devient dans ces conditions tout à fait claires, vous l'avez au bas de l'écran, hein, le phonéticien détermine les phénomènes sonores comme un praticien des sciences de la nature qui respecte l'axiome ubi materia ibi geometria. Le phonologue et le grammairien, en revanche, comme quelqu'un qui est empli par l'axiome du linguiste concernant la nature sémiotique du langage. Et ça veut dire en gros que la phonétique relève des sciences de la nature, tandis que la phonologie, seule la phonologie, relève, à proprement parler, des sciences du langage. Alors la connaissance que la phonologie a rendue explicite et à laquelle elle a permis de donner une formulation exacte n'était en fait nouvelle que dans sa forme, dit Buller, et non dans son contenu. Elle est en effet, observe-t-il, je crois que j'ai reproduit, oui, elle est, dit-il, contenue implicitement dans l'invention de l'écriture alphabétique. Donc là, nous retrouvons un problème, nous avons entendu parler abondamment tout à l'heure. Elle est contenue implicitement dans l'invention de l'écriture alphabétique et a régulé axiomatiquement, sans qu'il le sache, la façon de procéder de tous les linguistes. Alors est-ce que c'était pour le bien ou pour le mal? Quelqu'un nous en a parlé tout à l'heure de façon extrêmement éclairante. Donc elle a régulé axiomatiquement, sans qu'il le sache, la façon de procéder de tous les linguistes qui ont jamais essayé de représenter les ressources phonétiques, der Lautschatz, d'une langue comme un système d'unités discrets. Nous voyons en tout cas, pour le faire ressortir encore une fois, que même si on considère les choses du point de vue des sons, se vérifie la proposition selon laquelle le langage est de part en part ce qu'il est, à savoir un système de signes. Il l'est jusqu'au niveau le plus inférieur. Hein, c'est grâce à l'émergence de la phonologie, on a pu réintégrer le système des sons linguistiques et la théorie des sons linguistiques dans les sciences du langage telles qu'on les comprend à partir du moment où on accepte le principe, enfin à la fois le principe de la pertinence abstractive et le principe de la nature sémiotique du langage. Et ça, c'est incontestablement un épisode qui a eu une importance considérable aux yeux pour Buller. Et oui, une chose qu'il remarque aussi est que Saussure a appliqué ce principe. Donc le principe qui est évoqué dans ce passage, il l'a appliqué d'une façon qui faisait de lui un chercheur en avance sur son époque, dans sa conception de la phonologie. Donc il l'a appliqué dans sa conception de la phonologie, à laquelle il ne manquait malheureusement que l'indication de la manière dont la phonologie se rapporte à la phonétique. C'est ce que, selon lui, Saussure n'a pas été capable d'expliquer véritablement. Alors le premier vérite auquel on songe quand il est question de Saussure est évidemment celui d'avoir reconnu clairement ce que Buller appelle la dissociabilité ou la séparabilité pure de l'objet de la linguistique de la langue par rapport à l'objet de la linguistique de la parole. Et Buller le loue sans réserve pour la contribution déterminante qu'il a apportée à la théorie de la structure, notamment par la reconnaissance de la véritable nature et du même coup de l'autonomie des structures langagières. Il dit par exemple ceci, alors, j'espère que je ne l'ai pas oublié, eh bien si, bon. Alors, oui, ce que je voulais vous citer, oui, c'est un passage où il dit « Aucun linguiste moderne n'a décrit le caractère logique des structures langagières, ainsi sous-mologiques. » L'ennui avec Saussure, aux yeux de Buller, c'est qu'il avait un point de vue logique, mais c'était un point de vue psychologiste. Donc, évidemment, ça compromettait, en quelque sorte, dès le départ, cette intuition absolument novatrice qu'il a eue. Donc, aucun linguiste moderne n'a décrit le caractère logique des structures langagières avec autant de pertinence et en exploitant directement les fruits de son propre travail de recherche que ne l'a fait Ferdinand de Saussure. Mais le niveau est resté descriptif et il n'en est sorti aucune compréhension conceptuelle conséquente. Alors, en ce qui concerne le problème de la séparabilité complète de l'objet de la linguistique de la langue, c'est-à-dire de la langue, Buller dit non seulement... Saussure dit, non seulement la science de la langue peut se passer des autres éléments du langage, mais elle n'est possible que si ces autres éléments n'y sont pas mêlés. D'après Buller, malheureusement, Saussure est resté sur ce point à mi-chemin et il n'a pas réussi à utiliser le principe fondamental de la nature sémiotique du langage pour procurer à la linguistique un objet qui lui appartienne en propre et lui permette de se soustraire à la tutelle de la psychologie. Alors, c'est... j'avais bel et bien ce texte. Alors, j'en viens à celui dont je voulais vous dire un mot à présent. On reconnaîtra, pour commencer, dit Buller, par un hommage à une affaire Boygong, si je me souviens bien, l'exigence saussurienne de la construction d'une théorie générale des signes dans l'intérêt des sciences du langage et la connaissance de son importance, et on corrigera la supposition qu'elle n'existe pas encore. Donc l'erreur, c'est de croire qu'elle était encore à créer. Dans l'espoir qu'il met dans la psychologie, lors de sa construction, Saussure parle comme un enfant de son époque, dans la mise au premier plan du moment social psychologique, comme un Français du XIXe siècle finissant, je suppose qu'un Suisse, c'est un Français quand même, donc comme un Français du XIXe siècle finissant, que l'on songe à l'influence de Durkheim et de son école, ce qui est vrai, et que les sciences qui sont rassemblées ici, sociologie, psychologie, linguistique, auraient toutes les trois un intérêt vital à des intuitions tirées du résultat d'une sématologie parvenue à maturité dans ses applications. Il est difficile de dire laquelle des trois y aurait intérêt plus que les autres. La psychologie trouve dans son propre domaine de recherche partout du sémiotique et bien au-delà des processus d'échange des êtres humains entre eux à l'aide de son linguistique. C'est ainsi, par exemple, que déjà la théorie de la perception de la psychologie ne peut connaître son épanouissement sans pénétrer dans les fonctions sémiotiques des données sensorielles qui y sont contenues. Un point sur lequel Helmholtz, par exemple, avait énormément insisté. Il dit qu'on ne peut pas construire une théorie de la perception si on n'accepte pas, dès le départ, de considérer les sensations comme des signes, et même plus précisément comme des signes arbitraires, hein, ce qui pourrait inciter à faire un rapprochement avec le cas du langage. Le dire rapprochement ne serait pas pertinent, mais ça pourrait être tentant. Ça pourrait tenter un philosophe, par exemple, même beaucoup de philosophes. En tout cas, d'après Buller, donc loin que la sématologie ait besoin forcément de la psychologie, c'est plutôt le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que c'est la psychologie, par exemple la psychologie de la perception, qui, sans toute probabilité, va se trouver dans l'obligation d'utiliser des acquis de la sématologie. Donc, la psychologie trouve dans son propre domaine de recherche partout du sémiotique, et bien au-delà des processus d'échange des êtres humains entre eux et à l'aide des sons linguistiques. C'est ainsi, par exemple, que déjà la théorie de la perception de la psychologie ne peut connaître son épanouissement sans pénétrer dans les fonctions sémiotiques des données sensorielles qui y sont contenues. La sématologie peut par conséquent être obtenue pour, mais elle ne peut jamais être obtenue à partir des sciences mentionnées. La formule est très typique. Elle peut être obtenue pour, mais elle ne peut jamais être obtenue à partir des sciences mentionnées, car si elle doit avoir des mains et des pieds, elle doit être construite conformément à la chose. Les intuitions sématologiques qui offrent une assise aux autres sciences doivent être obtenues sur le modèle, exactement comme les propositions des mathématiques. Cela vaut pour toutes les propositions, comme celle de la pertinence abstractive, et il en faudrait une multitude de cette sorte. Tout essai de les démontrer inductivement, entre guillemets, inductivement avec les moyens d'une des sciences particulières qui ont été citées serait exactement aussi contraire à la réalité que si le physicien voulait démontrer avec ses moyens une proposition mathématique quelconque. Donc, à nouveau, on voit que les deux situations sont à ses yeux tout à fait comparables. C'est ici que le recours à la méthode logique de l'axiomaticien est susceptible de se révéler particulièrement éclairant. Elle est en effet, cette méthode, la seule à être en mesure de mettre en évidence les liens logiques et les rapports de dépendance et de subordination réels qui existent entre les différentes branches de la science. Oui, je pense qu'il faudra bientôt que j'arrête.
Oui, oui, non, c'est vrai. Comment que vous songiez
à... J'y songe. Mais quand même, il faut que je vous dise encore quelques mots sur ce dernier point qui est tout à fait important. Hein. C'est-à-dire qu'aux yeux de Buller, le seul moyen de résoudre le problème de Saussure, c'est précisément de recourir à la méthode axiomatique. Hein. C'est-à-dire, si on veut réussir à mettre de l'ordre, reconnaître les rapports réels d'ordre, enfin les relations d'ordre et de subordination qui existent entre les différentes parties de la science du langage, il n'y a que l'axiomatique qui permet de répondre à cette question. Alors, on retrouve du reste une des préoccupations centrales de Hilbert, bien entendu. Des quatre axiomes qu'il formule, Buller dit ceci: leur dérivation rend évident le fait qu'ils sont indispensables dès lors que l'on veut comprendre l'ordre existant dans l'entreprise globale de la science du langage. Donc, si on veut comprendre l'ordre, il faut recourir à la méthode axiomatique. Ou, pour dire les choses différemment, ils fournissent une justification tout à la fois logique et matérielle à l'appareillage que les chercheurs ont échafaudé autour de leur objet de recherche. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème. Juste quelques mots pour finir à propos d'une des thèses de Buller qui pourrait sembler surprenante, c'est-à-dire qu'il appelle la thèse de l'idéalité du langage, la thèse de l'idéalité de la structure langagière, de l'idéalité du langage. Alors, un des éléments les plus faibles à ses yeux dans la démarche de Saussure est constitué par le moment où il cherche à localiser concrètement l'objet spécifique de la linguistique de la langue et choisit pour cela l'endroit où l'image phonique, je crois que Saussure dit plutôt l'image acoustique, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Donc, il est, d'après Saussure, d'après Buller, préoccupé de conserver à la langue un caractère suffisamment concret en raison de ce qu'on peut appeler, c'est comme ça que Buller l'appelle, sa méfiance à l'égard des idéalia et des abstracta. Et donc, il croit pouvoir trouver cet élément concret à l'endroit où apparaît donc l'association entre l'image phonique et l'image de la chose. Alors, si on en croit Saussure, donc la langue, je cite, « la langue n'est pas moins que la parole un objet de nature concrète, et c'est un grand avantage pour l'étude. Les signes linguistiques, pour être essentiellement psychiques, ne sont pas des abstractions. Les associations ratifiées par le consentement collectif et dont l'ensemble constitue la langue sont des réalités qui ont leur siège dans le cerveau. » Alors là, il y a une préoccupation pour le concret que Buller trouve absolument illégitime. Il ne voit rigoureusement aucune raison de récuser l'usage des idéalia et des abstracta qui est absolument indispensable et que, du reste, toutes les autres sciences, d'après lui, pas seulement les mathématiques, hein, parce qu'on pourrait dire que les mathématiques ont un besoin essentiel de recourir à des objets idéaux, mais pas nécessairement la physique ou pas dans la même mesure, etc. Buller ne voit pas les choses de cette manière, et par conséquent, il critique assez sévèrement Saussure sur ce point. Et par exemple, à propos du phonème, il dit que les abstracta de la théorie du langage, notamment le phonème, ont certes besoin d'être réalisés dans le produit de l'acte de langage concret. On a donc affaire, dans le cas précis, selon lui, à un eidos, hein, c'est le terme qu'il utilise, qui peut être déterminé de façon scientifique, qui fait l'objet d'une réalisation concrète dans le système psychophysique du locuteur et ensuite de l'auditeur. Mais on n'a pas besoin d'en dire plus sur ce point du point de vue ontologique, et les propositions initiales sur lesquelles s'appuie la science du langage n'ont besoin de faire référence ni à un esprit absolu, ni à un esprit individuel. En revanche, ce qui est exprimé dans l'axiome concernant la nature sémiotique du langage et dans les autres axiomes ne pourrait pas ne pas y être mentionné. Et au total, dit Buller, je cite, « la simple description de l'état de choses tel que le voit et ne peut pas ne pas le voir le linguiste ne peut pas être effectuée de façon plus exacte et plus adéquate que cela n'a été fait depuis toujours dans la linguistique à l'aide de l'appareil conceptuel platonico-aristotélicien. » Donc il pense qu'on a recouru depuis le début à cet appareil sans y trouver rien à redire. Si ce n'est, il y a eu des objections, bien sûr, faites par les philosophes, mais là, évidemment, il est question de la façon dont ont procédé les praticiens de la science du langage. Là, il y a évidemment une opposition avec très nette avec Saussure, hein, qui soupçonne Saussure d'avoir été un peu trop obsédé par cette idée de s'en tenir au concret, ou en tout cas d'y revenir le plus le plus vite possible et avec la plus grande précision possible. Ce n'est pas du tout, la démarche de Buller est totalement différente. Alors, j'aurais eu encore un certain nombre de choses à dire, mais je ne vais pas le faire. J'aimerais terminer par une question qui m'a un peu obsédé pendant tout le temps que j'ai consacré à ce petit travail. C'est que Buller aime beaucoup la formule de Kepler, ubi materia, ibi geometria. Là où il y a de la matière, il y a de la géométrie. Alors je me suis dit, puisqu'il soutient que cette formule peut, en tout cas, devrait être transposée à la linguistique, si on prend la formule ubi lingua, ibi quid, c'est-à-dire, pour avoir un équivalent approximatif, un approximatif de la formule de Kepler, qu'est-ce qu'il faudrait mettre? Après avoir dit donc ubi lingua, là où il y a la langue, où il y a le langage, pardon, là où il y a le langage, là il y a quoi? Est-ce que c'est il y a quoi? Là il y a la sématologie, il y a je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quelle est la réponse que Buller considérait comme possible de donner à la question que je me suis posée en terminant, qui est évidemment cruciale parce que c'est toute la question de la pertinence du rapprochement qu'il effectue entre le cas des sciences mathématico-physiques et le cas d'une science comme la science du langage. Hein. Et par moments, on a quand même l'impression qu'il a un peu pressuré l'analogie entre les deux situations. Elle a peut-être fait au-delà du raisonnable. Bon, je voudrais bien m'excuser de risquer cette petite critique en terminant, mais c'est plutôt le résultat d'une certaine perplexité qui s'est emparée de moi, parce que j'ai eu l'impression quand même que la référence à Russell et Hilbert restait quelque chose d'un peu extérieur. Enfin, il se peut que je me sois trompé. Je vous remercie de votre attention, en tout cas.